Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Éric Vernier, qui vient de publier aux éditions Duno, Fraude fiscale et paradis fiscaux. C'est la deuxième édition, Éric Vernier. Quel changement par rapport à la première ?
Bonjour Pascal. Alors effectivement, deuxième édition et un changement qu'on retrouve finalement tout de suite dans le sous-titre, hein, puisque c'est aujourd'hui quand l'exception confirme la règle. Et ça, j'y tenais, c'est très important parce que tous les scandales que l'on a connus ces dernières années, voire ces derniers mois, voire ces derniers jours, montrent que effectivement la fraude fiscale et les paradis fiscaux ne sont plus des épiphénomènes de quelques personnages peu recommandables ou de quelques multinationales qui voudraient gagner un peu plus d'argent, mais c'est vraiment devenu le cœur du système économique mondial, avec des particuliers qui échappent à l'impôt, ça on le savait, mais des multinationales en nombre qui toutes passent par des montages particuliers pour éviter l'impôt, par des barons de la drogue évidemment, par quelques milliardaires ou des personnes simplement aisées qui aujourd'hui essayent d'éluder l'impôt pour gagner finalement un peu plus. Et donc, ce que l'on croyait être l'exception, enfin ce que le grand public croyait être l'exception, c'est aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est la règle.
Mais diriez-vous que le phénomène donc a pris de la masse, qu'il a augmenté, ou est-ce que les différents instruments de lutte contre les paradis fiscaux ont eu une efficacité quelconque, ou sont-ils totalement inefficaces ?
Alors, je crois qu'on a mis en place effectivement des textes, mais les textes ne sont pas toujours efficaces, ne sont pas toujours effectifs, ne sont pas toujours suivis d'actes réels. Et donc on a d'abord ce problème de textes qui existent, mais qui ne sont pas appliqués ou pas bien appliqués. Donc il y a des mesures qui sont prises, il y a aussi de plus en plus de gens qui contournent ces mesures, il y a des gouvernements ou des gouvernants qui n'ont pas envie que ces mesures s'appliquent totalement. On a donc énormément d'éléments qui font que, même si on met en place des outils et des mesures, l'efficacité est quand même relativement douteuse. Et encore au mois de juin, le juge Van Rijnbeeck disait « Il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les banques des paradis fiscaux qu'aujourd'hui ». Donc on s'aperçoit que finalement les mesures sont nécessaires, parce que s'il n'y en a pas et s'il n'y a pas de nouveaux outils, alors là c'est l'escalade, ce serait exponentiel. Mais en tout cas, ça ne permet pas d'éradiquer le problème, loin de là. On freine son augmentation, on freine son développement, mais en tout cas on n'éradique pas le problème de la fraude fiscale. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a aussi un peu plus d'informations par les réseaux, par des journalistes qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là, mais parallèlement on a quand même de plus en plus de fraudes par des fraudeurs de plus en plus expérimentés, ou en tout cas de mieux en mieux conseillés, parce qu'effectivement il y a quand même des outils qui freinent, donc il faut trouver des moyens de contournement plus sophistiqués aujourd'hui.
Alors après les attentats du 11 septembre 2001, on s'était aperçu que les groupes terroristes pouvaient se servir de paradis fiscaux pour organiser leur activité, pour trouver leur financement. Après la très grave crise économique qui a mis le monde en bas de 2008, on a dit « guerre aux paradis fiscaux, on va mener la guerre ». Comment expliquer qu'on ne puisse pas faire céder les îles Caïmans ou que les îles Vierges ? Comment expliquer que les pays du G20 réunis, qui ont une force de frappe non seulement militaire mais également économique, ne sont pas capables de faire céder des îles dont la puissance est quand même très petite ?
Alors, je crois que les pays ont la capacité de le faire. C'est la volonté qui manque, à mon avis. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison géostratégique, c'est-à-dire que ces pays peuvent être nécessaires dans certains votes, dans des institutions supranationales. Ça en fait un allié. C'est aussi, sur le plan géostratégique, le fait que ce sont des amis proches ou d'anciens amis, d'anciennes colonies, pour l'Angleterre, par exemple. Ou des membres du Commonwealth. Donc on a comme cela des effets de la géostratégie sur le manque de volonté, on a pas envie d'embêter les amis, et quelquefois ces amis-là sont tellement puissants qu'on ne veut surtout pas les
les croiser. Les îles Vierges sont plus puissantes que le Royaume-Uni ou les États-Unis?
Non, mais là je pense plutôt à Hong Kong avec la Chine derrière. Mmh. Donc là on a aussi ce phénomène de puissance trop forte pour qu'on aille les titiller, et quelquefois même on s'écrase devant ces puissances. Ça a été le cas justement vis-à-vis de la Chine lorsqu'on a sorti la liste de l'OCDE en 2008, où la Chine a fait pression sur la France et l'Angleterre pour qu'elle ne soit pas dans la liste noire de l'OCDE et que Hong Kong et Macao soient hors liste. Donc déjà, il y avait cette volonté de ne pas apparaître comme un pays dérangeant. Pour les autres, c'est effectivement des alliances qui peuvent s'expliquer par des votes à certains moments dans certaines institutions. Après, il y a une autre raison, c'est que certains pays, certaines de nos puissances, je pense à l'Angleterre notamment, n'ont pas envie qu'on tire un trait sur ces territoires, parce qu'ils ont une nécessité. Si je prends la City de Londres...
Laquelle alors? Parce que c'est un peu contradictoire de dire on est victime, l'État est moins riche, peut moins développer les services publics parce que la fraude fiscale, en France, on sait que la fraude fiscale équivaut à peu près au déficit budgétaire. Et s'il n'y avait pas de fraude fiscale, eh bien, on ne déplorerait pas les déficits budgétaires chaque année. Donc, comment expliquer que le Royaume-Uni, à la fois, est victime, en même temps, complice de ce phénomène?
Alors, selon moi, il y a deux explications. Il y a la première explication qui est, effectivement, par rapport à votre question sur le plan fiscal. Et là, je prendrai plutôt l'exemple des États-Unis qui, finalement, par les contournements fiscaux de leurs entreprises ont vu d'un bon œil le fait que leurs entreprises devenaient plus compétitives par leur rentabilité accrue, par l'économie fiscale. C'est-à-dire, ces entreprises qui gagnaient un peu plus d'argent que les entreprises, par exemple, européennes, finalement, devenaient plus compétitives grâce à cette économie fiscale.
Donc, quand on ne baisse pas les impôts, on ferme les yeux sur la fraude fiscale.
Ça a été un peu ça pendant quelques années, et finalement, maintenant, les États-Unis, avec Trump, sont en train de changer quelque peu, puisque finalement, ils vont baisser, ou ils ont baissé eux-mêmes leurs impôts, et vont peut-être devenir des paradis fiscaux. D'ailleurs, le Delaware en est un. Depuis très longtemps, c'est l'un
peut-être
des premiers,
pour nos,
d'ailleurs.
Pour nos auditeurs, expliquer un peu le cas spécifique du Delaware, donc c'est l'un des États fédérés des États-Unis, et qui est considéré comme un paradis fiscal. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre.
Alors, le Delaware a été l'un des premiers paradis fiscaux au sens moderne, puisque les paradis fiscaux existent depuis des milliers d'années. Mais le Delaware, c'est le 19e siècle, avec des États américains qui sont pour certains très pauvres et qui cherchent à attirer des entreprises. Et ce que ces États trouvent comme solution, c'est de proposer un impôt zéro. Hein, donc, on a le Kentucky et le Delaware qui ont procédé à cette proposition, à cette approche. Et du coup, effectivement, les entreprises américaines se sont installées en masse au Delaware, puisque on s'en aperçoit aujourd'hui avec une adresse au Delaware qui regroupe la plupart des entreprises, des plus grandes entreprises américaines. Donc dans le même immeuble, vous avez 80% des plus grandes entreprises américaines. Donc on imagine bien que ça ressemble plus à des boîtes aux lettres qu'à autre chose.
Mais ça veut dire, vous pouvez citer des noms de firmes connus qui auraient leur siège à Delaware?
Alors, on retrouve toutes les plus grandes firmes américaines de type Apple, Google et des firmes beaucoup plus industrielles. Donc on retrouve les pétrolières, on retrouve...
Qui du coup, les pétrolières ne sont pas au Texas, le siège d'Apple n'est pas en Californie, et du coup ils échappent à l'impôt national américain.
Ben, ils échappent à certaines taxations en étant installés effectivement au Delaware. Et donc, si on le laisse faire, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt, encore une fois, c'est souvent une compétitivité accrue par rapport aux concurrents, notamment européens. Donc ça, c'est la première raison qui est en train un petit peu de changer, parce que finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que partout dans le monde, il y a une course au dumping fiscal et tous les pays sont en train de baisser leurs impôts, y compris compris la France, leur impôt sur les sociétés, puisque c'est toujours quand même destiné aux mêmes. Hein. Les particuliers sont chassés, les particuliers fraudeurs sont chassés, les entreprises
un peu moins. Oui, parce qu'ils peuvent pas, c'est plus difficile d'avoir une adresse au Delaware pour vous et moi que pour une société.
C'est plus compliqué. Pour vous et moi, en tout cas, il y a quelques particuliers qui arrivent quand même, pas au Delaware, mais ailleurs, et notamment aux îles Caïmans ou dans ce type de pays. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les particuliers. Mais ça, c'est la première explication. La deuxième explication, et qui ramène à la Grande-Bretagne, c'est une explication qui est liée au fait que les paradis fiscaux sont en général en même temps des paradis bancaires et réglementaires ou judiciaires. Et l'aspect bancaire est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous avez une opacité bancaire et un laxisme judiciaire qui font que ces territoires finalement accueillent l'argent sale, très sale, ce que j'appelle l'argent noir, l'argent du crime, sans trop de difficultés. Et ça intéresse par exemple la Grande-Bretagne et la City en particulier, puisque tous ces partenaires ou anciens partenaires, les Dom-Tom ou anciennes colonies ou membres du Commonwealth, qui proposent quand même pas mal de paradis fiscaux, puisque sur les 60 que l'on peut compter, il y en a une quarantaine qui font partie de cette sphère britannique. Et finalement, ces territoires servent de prélavage à de l'argent très sale qui, une fois qu'il est un petit peu nettoyé, voire bien nettoyé, atterrit à la City et profite aux différents marchés.
Donc le schéma, c'est que je suis à la tête d'un cartel de trafic de drogue, je mets beaucoup d'argent, y compris en liquide, dans une banque, dans un paradis fiscal qui me demande pas l'origine. Si je fais ça en France, au-dessus de 3000 euros, on me demande quelle est l'origine des fonds. Là, donc, on met des grosses sommes de liquide dans des banques, dans des paradis fiscaux auxquels on ne demande rien, c'est de l'argent sale, il est transféré à la City, il devient de l'argent propre.
C'est un petit peu ça. Alors, c'est raccourci, mais c'est ça l'idée. C'est qu'effectivement, l'argent sale arrive en masse sur des territoires extrêmement laxistes et par différents montages, justement, de blanchiment à travers des sociétés écrans, à travers tout ce millefeuille que l'on peut découvrir au fil des scandales ou des révélations ces dernières années. L'argent est prélavé, puis lavé, et une fois qu'il est lavé, il atterrit effectivement sur les marchés financiers à la City et il pourra être utilisé comme l'argent propre puisqu'il aura cette façade tout à fait
blanchie. Ce que vous décrivez, Éric Vernier, est un phénomène tout à fait schizophrène. C'est que d'un côté, on combat le crime, il y a la Drug Enforcement Authority aux États-Unis, des dispositifs en Grande-Bretagne, donc d'un côté, on combat le crime parce que ça pose tous les problèmes que l'on connaît, et de l'autre, on ferme les yeux sur les bénéfices tirés du crime.
C'est un petit peu ça, c'est même effectivement extrêmement étonnant, et le schizophrène doit être le terme, oui, je crois. Et on s'en aperçoit aujourd'hui avec de l'argent qui a été considéré comme sale pendant très longtemps, et je pense à l'argent qui provenait de certains oligarques russes, qui aujourd'hui ne doit pas être critiqué, parce qu'on dit non, mais ça c'était les années 90, les années 2000, aujourd'hui c'est terminé. Sauf qu'on sait très bien que ça n'est pas terminé, que l'argent sale, une fois qu'il a été blanchi, effectivement, dans des activités tout à fait propres, qui servent d'ailleurs à blanchir l'argent sale qui arrive à nouveau. Donc on est un petit peu dans le cercle vicieux, mais par ces activités tirées de l'argent blanchi, effectivement, on ferme les yeux sur le passé et on ferme les yeux sur ce qui pourrait se faire à côté. Et on s'aperçoit justement par ces constatations que d'un côté, effectivement, on s'attaque au crime, mais l'argent du crime, finalement, par le biais du blanchiment, eh bien, on peut le taxer en fermant les yeux, justement, sur son origine. Une fois qu'il est blanchi, finalement, il paraît comme de l'argent tout à fait propre et il va rentrer dans nos économies, donc il va profiter à l'investissement dans certains pays, notamment les pays les plus riches, les pays industrialisés, et puis il sera, dans certains cas, taxé à travers ses nouvelles activités propres. Donc, il y a un intérêt financier, peut-être, séparons, au final, l'aspect criminel de l'aspect financier.
Alors, il y a eu, vous en parlez dans votre livre, de nombreuses révélations, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, qui ont créé un choc dans l'opinion. Il y a quand même beaucoup d'investigations qui a été faites. Est-ce que vous diriez c'est qu'il y a plus de fraude fiscale et de paradis fiscaux aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a plus d'enquêtes sur cette fraude et ces paradis fiscaux? Et en fait, est-ce que l'on est plus informé du phénomène ou est-ce que le phénomène est plus important?
Alors, d'abord, il n'y a pas plus de paradis fiscaux. On est toujours à une soixantaine. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qui est affirmé par certains politiques, il n'y en a pas moins. On est toujours à une soixantaine de pays, malgré ces listes officielles qui sont vides. La liste française avec quelques pays, la liste européenne avec 8 pays ou 7 pays selon les jours. Donc, on a toujours autant de paradis fiscaux. Fraude fiscale, on en a un peu plus, mais différente. La dernière étude de Gabriel Zucman montre qu'on n'est plus à 6 500 milliards d'argent caché dans les paradis fiscaux, mais on est à 8 000 milliards. Sauf que cet argent provient de plus en plus des pays en voie de développement et de moins en moins des pays industrialisés. Donc il y a un changement, mais il y a de plus en plus d'argent caché dans ces territoires. Et parallèlement, effectivement, vous avez raison, c'est qu'on en parle de plus en plus parce que vous avez d'une part l'ICIJ, le consortium international de journalistes qui travaille beaucoup dessus, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres consortiums de journalistes qui travaillent beaucoup sur ces questions de fraude, de corruption, de blanchiment, et puis des journalistes qui, même à titre indépendant, sont peut-être plus informés et mieux formés, et on en connaît certains en France qui travaillent beaucoup sur ces questions, comme Fabrice Arfi ou d'autres, et donc on est de plus en plus au courant de ces affaires, elles éclatent de plus en plus, on a eu le Football Leaks aussi, donc on a eu aussi des révélations sur le monde du showbiz, donc on s'aperçoit d'abord encore une fois que ça touche tout le monde, que ça touche toutes les strates de la population. Mais c'est effectivement des journalistes de plus en plus formés et de plus en plus regroupés qui peuvent donc du coup échanger les informations à travers le monde parce que c'est un problème qui est international et si on enquête sur le plan national c'est souvent très compliqué. Et puis de l'autre côté les réseaux sociaux qui permettent d'avoir un peu plus d'informations.
On pourrait dire, à vous lire et à vous écouter, que le phénomène de paradis fiscaux est quand même lié à la mondialisation. Ça offre plus de facilité, également plus de facilité pour lutter contre l'État. Et puis aussi, les exemples que vous citez, ce sont ces grandes fortunes, souvent rapides. Plus on est riche, plus il y a une incitation à la fraude fiscale. Et le fait que, soit dans le showbiz, soit dans le sport, soit dans les nouvelles technologies, des fortunes colossales se soient constituées très rapidement, et donc cette nouvelle forme d'inégalité, ce qu'on appelle le 1% du 1%, on est là au cœur de la fraude fiscale.
On est au cœur de la fraude fiscale sur effectivement cette frange de la population qui draine le maximum de revenus et de patrimoine. Et donc cette fraude est extrêmement importante et réduite à quelques personnes finalement. Donc on a évolué par rapport à l'époque où on montrait du doigt quelques commerçants ou quelques taxis qui mettaient de l'argent liquide de côté. On est vraiment sur un autre type de fraude, même si ce qui existait avant existe toujours, mais on est sur un autre type de fraude avec des fraudeurs très riches qui fraudent énormément, fraudeurs sociétés ou fraudeurs particuliers, et donc de l'autre côté, une assiette fiscale qui se réduit, et donc on a ce besoin de charger un peu plus ceux qui ne fraudent pas. Et donc on a ce phénomène qu'on connaît depuis très longtemps dans des pays en voie de développement, où on a des très riches qui ne payent pas d'impôts et des très pauvres qui ont du mal à payer, et donc un pays qui se retrouve dans des difficultés budgétaires énormes. On retrouve ce phénomène maintenant dans nos pays, avec, on le sait très bien, les difficultés budgétaires, les crises budgétaires des pays européens notamment, avec une classe moyenne qui a du mal de payer des impôts qui sont de plus en plus lourds, et cette frange de plus en plus riche qui paye très peu d'impôts finalement, parce que les possibilités sont de plus en plus nombreuses, notamment, comme vous le disiez, par la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, mais aussi par toutes les nouvelles technologies qui permettent des transferts d'argent ou des montages plus sophistiqués, et puis la facilité pour tout un chacun de voyager, de se déplacer et donc d'améliorer encore les techniques et la fraude.
Vous consacrez un chapitre à la réglementation et à la lutte contre la fraude fiscale. Que diriez-vous du dispositif qui est mis en place en France pour lutter contre la fraude fiscale ? Est-ce qu'il vous paraît amélioré, efficace, bancal, partiel ?
Alors, la France n'est pas le plus mauvais élève dans la lutte contre la fraude, mais on s'aperçoit que les moyens sont quand même relativement réduits et que, en termes de moyens humains notamment, c'est très insuffisant. Le président Macron parlait d'augmenter le nombre de contrôleurs du RSA, en quelque sorte. Par contre, on réduit plutôt ceux qui s'occupent de la grande fraude fiscale. Donc ça, c'est un vrai problème. Je crois que les moyens humains existent, mais ils ne sont pas alloués comme il faut. On s'occupe plus de contrôler les salariés qui, aujourd'hui, ont quand même énormément de difficultés de frauder. Compte tenu des nouvelles mesures avec l'employeur qui envoie aussi des informations. Et par contre, sur la grande fraude, oui, effectivement, on a toujours un problème et on a toujours ce verrou de Bercy qui, même s'il a partiellement sauté, existe toujours avec parallèlement la
Donc
possibilité...
Donc le verrou de Bercy, ça veut dire que c'est seul Bercy peut entamer des poursuites par rapport à la fraude fiscale et pas le juge ordinaire.
Voilà, jusqu'ici c'était le cas pleinement, c'est-à-dire que le juge ne pouvait pas saisir d'une affaire fiscale, seul Bercy pouvait transmettre l'affaire.
Ce qui laisse supposer du copinage, etc.
Ce qui permettait effectivement de s'arranger avant d'aller plus loin. Donc ce verrou a partiellement sauté, mais il est quand même toujours là, notamment pour les affaires les moins graves, mais où est le degré de gravité, c'est toujours le problème du curseur. Et deuxièmement, on a à côté cette possibilité pour les entreprises repenties d'être excusées, d'être absous. Et donc, on enlève d'un côté une facilité et on en rajoute une autre qui est encore pire. Alors, je passe même la loi sur le secret des affaires qui pose vraiment de graves problèmes sur ces questions-là en France.
Là encore, contradiction entre les objectifs et la pratique. Vous faites en conclusion un guide touristique des paradis fiscaux, donc ça laisse un peu le choix des destinations peut-être pour les prochaines vacances. Alors, Caraïbes, Europe, Asie-Pacifique, et vous faites ensuite 10 fiches de paradis exemplaires, et dedans, surprise, il y a la City de Londres.
Oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure avec la City qui a autour d'elle plein de territoires qui prélèvent l'argent sale. La City, ça représente entre 10 et 13% du PIB de la Grande-Bretagne, donc c'est central pour l'économie britannique. Et la City a une autonomie, notamment fiscale, qui lui permet de faire un petit peu ce qu'elle veut et de ne pas trop regarder d'où provient l'argent, qui vient d'ailleurs de ces grandes banques internationales basées un petit peu partout dans les paradis fiscaux, mais pas que. Donc ces banques qui sont basées à Hong Kong, aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques, à Belize, vont pouvoir prélever l'argent.
Autres paradis fiscaux que vous citez dans votre livre.
Voilà, ouais. et qui permettent de prélever l'argent qui va arriver à la City, et donc cet argent va alimenter les marchés financiers sur un territoire où la fiscalité est extrêmement douce.
Est-ce que le Brexit va avoir un impact sur cela ? Est-ce que la City pourra moins facilement servir de paradis fiscal ou moins facilement servir de ressort une fois que le Brexit aura pris place ?
Alors là, pour moi, c'est le grand point d'interrogation parce que il peut se passer une chose comme son contraire. C'est-à-dire que le Brexit peut amener la Grande-Bretagne à être un peu plus rigoureuse dans sa réglementation anti-blanchiment, anti-fraude fiscale parce que justement, elle n'est plus dans un système et donc pour y rester d'une autre manière, il faudra qu'elle respecte les règles. Mais elle peut aussi décider, puisqu'elle n'est plus dans l'Europe, de dire, ben voilà, maintenant je vais en profiter, je suis libre.
De devenir un Delaware européen.
Voilà, donc pour moi c'est un point d'interrogation et je n'ai aucun signal qui me permette de prendre position, on va voir.
Bon, merci Éric Vernier, je renvoie à la lecture de votre livre « Fraude fiscale et paradis fiscaux », c'est la deuxième édition, quand l'exception devient la règle, c'est tout le défi effectivement. Ça vient de paraître aussi en Duno, news, c'est à la fois passionnant, instructif et complet. Merci Eric Vernier.